Ottawa, Afrique. Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à toutes et à tous. Jeudi 15 octobre 2015, bienvenue dans Le Monde aujourd'hui. Anastasie Tudiache et Anne Albertson, en direct de Washington. Tout de suite les titres avec vous, Anne.
Élection présidentielle en Guinée, premier résultat et retrait du principal opposant, Sélou Dalein Diallo.
Cameroun, des militaires américains envoyés en renfort dans la lutte contre Boko Haram.
Deuil national au Burkina Faso en hommage aux pèlerins disparus à la Mecque.
Pour le FMI, la République démocratique du Congo peut mieux faire.
Le Monde aujourd'hui, c'est aussi le sport et la Minute Éco, mais d'abord le journal.
VOA Afrique, Le Monde aujourd'hui. À Washington.
En Guinée, on connaît les premiers résultats du scrutin du 11 octobre. La Commission électorale nationale indépendante, la CENI, a publié mercredi soir les suffrages par candidat dans quelques circonscriptions électorales. Et sans surprise, deux noms se dégagent. Un reportage de Zakaria Camara.
Deux candidats qui se distancent des autres, le président sortant Alpha Condé et le chef de file de l'opposition, ont fait de bons résultats dans quelques circonscriptions. Les résultats publiés par Bakary Fofana, président de la Commission électorale nationale indépendante, et par région, dont par exemple M. Diallo, vainqueur à Dakar avec plus de 60% de suffrages, alors que M. Condé occupe la tête en France avec 45% de suffrages. L'ancien Premier ministre Sidya Touré et le ministre conseiller à la présidence, Papakoli Kuruma, occupent le second rang. Les quatre autres candidats occupent le bas du tableau avec moins de 1% de suffrages exprimés. Les résultats provisoires concernent les régions d'Europe, une partie de l'Afrique et quelques circonscriptions des régions de Zérokoré, de Labé, de Farana et de Conakry. Ces résultats sont partiels et provisoires. La CENI estime le taux de participation à 75%. Conakry, Zakaria Camara pour la Voix de l'Amérique.
Ajoutons que peu avant l'annonce des résultats, M. Diallo faisait savoir par la voix de son porte-parole qu'il se retirait ainsi que ses représentants de manière définitive d'un processus électoral qu'il a qualifié de, je cite, simulacre d'élection. M. Diallo a également réitéré son intention de manifester légalement et pacifiquement avec ses partisans en signe de protestation, alors que le ministre guinéen des Affaires étrangères, François Lonsenifal, lançait un appel au calme.
Rien ne peut se construire dans le désordre. Nous demandons à tout le monde de renoncer à la rue qui n'est pas la solution. Nous rappelons aux acteurs politiques leur engagement lors du précédent dialogue à privilégier le dialogue au détriment de la violence.
Les États-Unis aux côtés du Cameroun pour lutter contre Boko Haram. Le président Barack Obama a annoncé hier l'envoi de personnel militaire au Cameroun pour aider le pays en proie aux attaques des terroristes nigérians. Michel Joseph.
Au total, quelques 300 militaires américains seront déployés au Cameroun, avec pour mission de mener la surveillance aérienne et la collecte de renseignements sur les activités des militants de Boko Haram. 90 ont déjà entamé leur déploiement au Cameroun lundi, a précisé le président Barack Obama dans sa lettre adressée à cet effet aux leaders du Sénat et de la Chambre des représentants. Selon le porte-parole de la Maison-Blanche, Josh Earnest, l'assistance militaire américaine s'inscrit dans le cadre des efforts régionaux en vue de contrer la propagation du groupe militant nigérian et d'autres extrémistes. Les militaires américains travailleront en coordination avec le gouvernement camerounais, a fait savoir Josh Earnest, en précisant toutefois qu'ils seront armés pour leur propre protection, mais qu'ils n'assumeront aucun rôle dans les combats. Le Cameroun fait partie, avec le Tchad, le Niger et le Bénin, des pays membres de la force régionale multinationale chargée de lutter contre Boko Haram et son projet d'ériger un État islamique dans le nord du Nigeria.
Le gouvernement du Burkina Faso a décrété un deuil national de 3 jours à compter de demain vendredi pour rendre hommage aux 22 Burkinabés tués lors de la bousculade au pèlerinage de la Mecque. Les chiffres officiels font état de 22 morts et 7 disparus pendant la bousculade survenue à Mina, à l'est de la Mecque en Arabie Saoudite. 5662 musulmans burkinabés s'étaient rendus en Arabie Saoudite pour accomplir le cinquième pilier de l'islam.
Au Burkina, toujours tout autre chose. Soupçon de terrorisme, le gouvernement a interdit de circulation pour des raisons de sécurité tout véhicule non muni de plaques d'immatriculation et ceux possédant des vitres fumées ou teintées, dans un communiqué publié hier. Ces mesures ont été annoncées après l'assassinat de 3 gendarmes vendredi dernier lors d'une attaque à Samorogouan, près de la frontière malienne.
La RDC, pays riche mais pays pauvre. Selon le FMI, la RDC, la République démocratique du Congo, présente le visage paradoxal d'un pays immensément riche en ressources naturelles où la pauvreté est généralisée. Premier producteur de cobalt au monde, la RDC figure parmi les plus grands producteurs de cuivre et de diamants de la planète et est très bien dotée en ressources hydrauliques et forestières. Le dernier rapport du FMI sur l'état de l'économie congolaise, publié hier, révèle que selon les autorités de Kinshasa, le PIB par habitant de la RDC a doublé entre 2005 et 2012, mais qu'il reste faible. 82% de Congolais vivent aujourd'hui sous le seuil de pauvreté absolue, soit 1,25 $ par jour et par personne. Un chiffre qui n'a baissé que de 5 points.
Et restons en RDC, où plus de 500 violations ont été enregistrées au cours du mois de septembre. C'est ce qui ressort du rapport mensuel du Bureau des Nations Unies aux droits de l'homme. Ce bureau exprime son regret face à la répression de la liberté d'expression et l'instrumentalisation de la justice. José María Arnaras, le directeur du bureau conjoint des Nations Unies pour les droits de l'homme, on l'écoute au micro de Cynthia Lusumba de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa.
Les agents de l'État seront responsables d'un peu plus de la moitié des violations des droits de l'homme. Par rapport aux activités des groupes armés, les groupes plus actifs dans les violations des droits de l'homme, c'était les Lord Resistance Army subies par les FDLR. On a documenté aussi une hausse dans les violations des droits de l'homme par rapport aux violences sexuelles avec 64 victimes. On a montré aussi notre préoccupation par les 21 violations des droits de l'homme enregistré dans le cadre du processus électoral. Donc il y avait au moins 18 victimes parmi les partis politiques de l'opposition. Et on a documenté aussi au moins 5 manifestations organisées par les partis opposition et la société civile qui étaient soit réprimées violentement par les forces de sécurité, soit interdites par les autorités locales. Le bureau regrette aussi l'instrumentalisation de la justice par rapport aux cas des condamnations des opposants politiques et membres de la société civile.
D'accord, très bien.
C'était José María Arnaras, directeur du Bureau conjoint des Nations Unies pour les droits de l'homme.
Attention, Ebola toujours virulent. Une étude publiée hier révèle que plus de 8000 hommes ayant guéri d'Ebola dans les 3 pays d'Afrique les plus touchés ont ensuite rechuté. Les chercheurs ont découvert que le virus Ebola pourrait persister dans le sperme de certains survivants à l'infection, au moins 9 mois, soit plus longtemps que ne le pensaient les virologues. Les autorités sanitaires recommandent aujourd'hui aux survivants de s'assurer que leur sperme est testé 2 fois négatif avant d'avoir des relations sexuelles ou bien d'utiliser un préservatif.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
La Russie et les États-Unis sont proches d'un accord pour éviter des incidents entre leurs aviations dans le ciel syrien. C'est ce qu'a déclaré un responsable américain ici à Washington. Les explications de Georges Léonard Sagnot.
Un protocole pourrait être signé et appliqué dans les prochains jours, a assuré ce responsable américain mercredi à l'issue d'une 3e séance de discussion par vidéoconférence entre Américains et Russes. À Moscou, le ministère russe de la Défense, que citent les agences de presse, a confirmé l'information, affirmant notamment « Nous nous sommes mis d'accord sur la procédure pour les actions à venir ». Pour rappel, la Russie procède depuis le 30 septembre à des frappes aériennes contre les rebelles syriens en appui au gouvernement du président Bachar al-Assad. De son côté, la coalition internationale menée par les États-Unis mène depuis plus d'un an une campagne aérienne en Syrie et en Irak contre le groupe État islamique. Cette situation fait craindre de dangereux incidents dans un contexte de grande tension internationale. Mardi, un porte-parole du Pentagone avait mis en garde contre une situation situation dangereuse après que des avions militaires russes et américains se soient retrouvés samedi juste à quelques kilomètres l'un de l'autre. L'incident a été confirmé par le ministère russe de la Défense qui a fait savoir que les avions russes ont toutes les bases légales pour se trouver dans l'espace aérien syrien.
La vague d'attentats a franchi un nouveau palier en Israël, malgré la mise en place de postes de contrôle autour de Jérusalem-Est, la partie palestinienne de la ville annexée et occupée par Israël, dont la plupart des attaquants sont originaires. De son côté, Israël annonce de nouvelles dispositions. Les règles de port d'armes vont être assouplies, les corps des auteurs d'attentats ne seront plus restitués à leurs familles et 19 Palestiniens vont être déchus de leur titre de résidence à Jérusalem-Est.
Les dirigeants des 28 pays membres de l'Union européenne se réunissent aujourd'hui à Bruxelles pour un nouveau sommet sur les migrants. Il s'agit aujourd'hui de convaincre la Turquie, réticente d'apporter sa contribution. L'attentat suicide meurtrier de samedi dernier à Ankara, qui a fait 99 morts, a ralenti une négociation déjà difficile. Mais la coopération de la Turquie est devenue plus qu'urgente. Pays limitrophe de la Syrie en guerre, la Turquie est devenue une porte d'entrée pour des centaines de milliers de réfugiés vers l'Europe.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui. Tout de suite, la Minute Éco, Saloua Jafari.
La Minute Éco d'aujourd'hui, c'est ce rapport publié par la FAO, l'organisation de l'ONU pour l'alimentation et l'agriculture. Voici ce qu'il en ressort. Bien que de nombreux pays aient accompli de grands progrès en matière de lutte contre la pauvreté ces dernières décennies, en particulier en Asie de l'Est et du Sud et dans le Pacifique, d'autres régions comme l'Afrique subsaharienne restent confrontées à une pauvreté tenace. Le directeur général de l'organisation, José Graciano da Silva, explique l'origine du problème.
Contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, il n'y a pas de manque de nourriture dans le monde. Il y a en fait trop de nourriture aujourd'hui. Il y a énormément de gaspillage. Un tiers de la nourriture est gaspillée. L'accès à la nourriture est plus important que sa disponibilité.
Au total, environ 795 millions de personnes continuent à souffrir de la faim dans le monde et près d'un milliard de personnes vivent en situation d'extrême pauvreté. Pour venir à bout de l'engrenage de la faim, la FAO recommande un plus grand recours à la protection sociale sous la forme d'aide sociale, d'assurance sociale ou de programmes visant le marché du travail.
Place au sport maintenant avec vous, Timothée Dangmaï. Bonjour Tim.
Bonjour Anastasie.
Football, c'est le 20 octobre que sera dévoilée la liste des 23 joueurs nominés pour le Ballon d'Or et celle des trois finalistes le 30 novembre.
L'annonce a été faite mercredi par la FIFA, le trophée devant être remis le 11 janvier à Zurich. Lionel Messi, meilleur joueur UEFA pour la saison écoulée, est le grand favori pour succéder à Cristiano Ronaldo. L'Argentin et le Portugais, grands rivaux du Barça et du Real Madrid, ont monopolisé les ballons d'or depuis celui de 2008, remporté par Ronaldo. Messi en a gagné 4 contre 3 pour Ronaldo.
Toujours en football, Lindile Kika, un ancien responsable de la Fédération sud-africaine de football, a été suspendu aujourd'hui pour 6 ans de toute activité liée au football.
Cette sanction prise par la chambre de jugement de la commission d'éthique de la FIFA est liée à une affaire de matchs amicaux suspects en 2010 et n'a rien à voir avec les autres affaires qui secouent actuellement la Fédération internationale. La FIFA avait établi qu'au moins 5 matchs de préparation des Bafana Bafana avant le Mondial 2010 en Afrique du Sud avaient fait l'objet de manipulation dans le cadre d'une fraude au pari, rapportait le New York Times en mai 2014. L'un de ces matchs contre le Guatemala avait été remporté par les Sud-Africains 5-0 et l'arbitre nigérien avait déposé par la suite une somme de 100 000 dollars sur un compte bancaire sud-africain.
Un mot de tennis, Tim, avec quelques résultats des Masters de Shanghai.
Novak Djokovic s'est qualifié mercredi pour le troisième tour en battant 1-2-7 Martin Klizan, 6-2 et 6-1. Rafael Nadal a eu de son côté la tâche plus rude face à Ivo Karlovic, s'imposant finalement par 2-7-1 à l'issue d'un match marathon de 2h43. Stan Wawrinka a sorti 1-2-7 Victor Troicki. Bernard Tomic a éliminé de son côté David Ferrer 1-2-7, 6-4 et 6-2.
Et mauvaise nouvelle pour l'ancien basketteur Lamar Odom, ex-mari de la vedette de télé-réalité Khloé Kardashian.
Odom a été retrouvé inconscient dans une maison close du Nevada et a été conduit dans un hôpital de Las Vegas, a indiqué le bureau du shérif du comté de Nye, à environ 130 km au nord-est de Las Vegas. Selon le site d'information sur les célébrités TMZ, l'ancien joueur, âgé de 35 ans, se bat pour sa vie. Odom a remporté 2 titres NBA avec les Los Angeles Lakers en 2009 et 2010.
Merci Timothée Donangmaï.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Anastasie Tudiech avec vous et tout de suite nos dossiers du jour. Aujourd'hui au Burkina Faso, on commémore le 28e anniversaire de l'assassinat de Thomas Sankara. Ce dernier a été abattu lors du coup d'État qui a porté Blaise Compaoré au pouvoir le 15 octobre 1987. Cet après-midi-là, Thomas Sankara et 12 autres personnes avaient été tuées et enterrées à la sauvette au cimetière de Dagnoin, dans l'est de Ouagadougou, par une vingtaine de détenus de la prison centrale de la capitale burkinabé. Yamba Malik Sawadogo était parmi ces détenus. Il revient sur l'enterrement du père de la révolution burkinabé au micro de notre envoyé spécial à Ouagadougou, Bagassi Koura.
Arrivé au cimetière de Dagnoin, le régisseur nous a demandé de creuser. Dans un premier temps, j'ai compris qu'il voulait qu'on fasse une fosse commune. J'ai posé la question par deux fois si ce n'était pas possible qu'on puisse faire des tombes individuelles. Alors, il s'est fâché en un premier temps avant de se ressaisir. Il a accordé, il a dit « bon, pas de problème, faites comme vous voulez ». Voilà pourquoi on a pu effectivement creuser les tombes. Mais auparavant, il nous avait dit une dizaine. Donc, on a creusé 10 tombes. C'est quand les corps sont arrivés qu'on s'est rendu compte qu'il y avait 13 corps au lieu donc de 10. Avant l'arrivée des corps, on ne savait pas qui étaient ces gens.
Alors aujourd'hui, le rapport balistique parle de corps criblés de balles. Ça, c'est quelque chose que vous saviez depuis cette nuit.
Oui. J'avoue que nous avions enterré les corps sans gants. Donc, toutes nos mains étaient totalement ensanglantées, le véhicule totalement ensanglanté. L'ampleur, quand vous voyez comment les gens étaient criblés comme des animaux, c'est vilain. Mais, comme je l'ai dit, ils étaient tous identifiables. Surtout Thomas était en rouge, en survêtement rouge. Donc, avec le sang, de loin, tant que vous ne le touchez pas, vous ne sentez pas qu'il y a du sang sur lui. Donc, c'est comme s'il dormait. Coucher les poings fermés, bouche bée, c'est comme s'il transmettait un message. Cette image me reste toujours.
Est-ce que c'est une fierté d'avoir enterré un grand homme ou est-ce que ça vous fait mal d'avoir contribué à l'œuvre de ceux qui l'ont abattu?
Non, il y a deux lectures ici. Ça me fait mal parce que quand je parle de ça, jusqu'à présent, j'ai des difficultés. Mais la première lecture est que j'ai l'impression que Thomas n'est pas un homme comme les autres. Parce qu'à sa mort, il y a eu un témoin, Aluna Traoré. Il était là-bas. À son enterrement, il y a un témoin que je suis. Parce que quand je revisite cette histoire, je me demande pourquoi je me suis retrouvé là-bas. Parce que j'étais pas obligé d'aller à cette corvée. D'ailleurs, j'avais dit à mon co-détenu de trouver 20 corvéables. C'est par la suite que je me suis dit, mais non, il ne faut pas envoyer les enfants la nuit tout seul. Donc, je vais les accompagner. Donc, pour cela, je pense que c'est Thomas qui a voulu un témoin, bon, qui puisse quand même retracer la mort atroce qu'il a subie. La deuxième lecture, c'est que souvent, je me demande pourquoi moi. Parce que ça me fait mal. Quand je regarde, ça me fait mal. Et je me demande comment et quand est-ce que je pourrais vider ça. Parce que dès lors que j'ai commencé à parler, dès lors que j'ai pu déposer devant le juge, et dès lors que j'ai commencé à parler, à un moment donné, je sentais que, bon, ça va, je me dégageais. Mais malgré tout, ça ne va toujours pas. Donc c'est vraiment un choc. Je ressens toujours ce choc.
C'était le témoignage de Yamba Malik Sawadogo au micro de Bagassi Koura. Hier sur notre antenne, Mamadi Kondé, l'ambassadeur de Guinée à Washington, accusait la CENI d'avoir délibérément fait perdre les fichiers électoraux de la diaspora guinéenne des États-Unis. Ce matin, dans notre journal, Maxime Koivogi, directeur du département transparence électorale de la CENI, joint à Conakry, réagit. Eric Maniarakiza a recueilli ses propos.
J'avoue, j'ai eu une communication directe avec la CAMI et monsieur l'ambassadeur. C'était pratiquement le 10, donc la veille du scrutin, où j'ai exprimé, et je le réexprime, notre profond regret de constater que nous n'avons pas pu autoriser nos concitoyens de Washington de voter par récépissé. Comme l'ambassadeur l'a bien expliqué, les listes ne sont pas arrivées au site central pour donc les intégrer au fichier. Ils sont restés avec les récépissés et leur nom n'a pas pu être intégré au fichier national. Donc, ils n'ont pas reçu de carte d'électeur, qui est l'unique pièce qu'on présente dans le bureau de vote pour procéder son choix entre les candidats. Évidemment, c'est fort regrettable. Parlant même de ce que M. l'ambassadeur disait de mains invisibles dans pareilles choses, on est quand même, je dirais, dans les leçons à tirer et dans les dispositions de corrections à prendre. Nous serons amenés à mettre concrètement ces situations qui ne méritent pas d'être retrouvées ou rencontrées dans le processus.
C'était Maxime Koivogi au micro d'Eric Maniarakiza.
La Voix de l'Amérique à Conakry sur Sabari FM, Soleil FM et Gangan FM.
L'ancien président du Bénin, Mathieu Kérékou, est mort hier mercredi à l'âge de 82 ans. Surnommé le caméléon, Mathieu Kérékou a dirigé son pays pendant un total de 30 ans. Idrissa Seydou Dia revient avec le professeur Léonard Wanchekon de l'Université Princeton sur l'héritage Kérékou.
Je dois dire que l'héritage du président Mathieu Kérékou est double. C'est d'abord l'autocrate qui a dirigé le pays de 72 à 90. Et pendant ce temps, il y avait la répression, le parti unique, l'exil. Donc c'était une dictature classique, quoi. Mais à partir de 90, sous la pression populaire, il n'a pas résisté, en fait. Il a autorisé, il a concédé la conférence nationale. Suite à la conférence nationale, il a eu un régime de transition, il a des élections qu'il a perdues. Il est revenu, donc, 4 ans plus tard et a dirigé le pays encore une fois pendant 8 ans. Dans un certain sens, c'est l'autocrate et puis après, le démocrate.
On lui reconnaît effectivement le mérite d'avoir été le premier en Afrique à organiser une conférence nationale. Et ça a été le début du multipartisme un peu partout sur le continent africain.
Ça, c'est vrai, mais il ne l'a pas fait de lui-même. Il ne s'est pas réveillé un beau matin pour dire, voilà, pour organiser une conférence nationale. C'est qu'il y a eu des centaines et peut-être des milliers d'opposants. Certains ont perdu leur vie. Il y a eu des grèves des travailleurs pendant des mois et des mois. Et il a choisi de concéder, donc, cet élan, de concéder, disons, à cette volonté populaire de liberté. Il dit cela en connaissance de cause, parce que je suis justement l'un des opposants politiques au président Kérékou dans les années 80. Donc, j'ai fait 18 mois en prison, j'ai été torturé de façon assez dure pendant cette période-là. Je me suis exilé, donc j'ai fui le pays pour aller m'installer à l'étranger.
Oui, on ne peut pas effectivement nier une partie importante de son passé. Seulement aussi, on peut dire que dans une certaine mesure, il a favorisé aussi l'alternance au Bénin, parce que je me souviens à la fin de son dernier mandat, et il était atteint par la limite d'âge. Beaucoup de gens voulaient qu'il continue, comme on l'a vu récemment dans certains pays africains. Il faut qu'il reste au pouvoir pour terminer ce qu'il a entamé. Et il a refusé, il s'en est allé à la fin de son mandat.
Absolument, ça c'est très très important. Je pense que s'il y a quelque chose qu'il faut lui reconnaître en premier, c'est celui-là. Non seulement il ne s'est pas entêté en 90, et ensuite il ne s'est pas entêté en 2006. Donc, lorsqu'il y avait cet appel à la révision de la Constitution, il s'est opposé et il a accepté donc l'alternance, quoi. Donc, de ce point de vue, je crois que vous avez entièrement raison. Donc, je crois que ça, c'est un élément très, très important.
Le professeur Léonard Wanchekon de l'Université Princeton aux États-Unis. Au Cameroun, toujours pas de solution à l'horizon pour les retraités de sociétés d'État privatisées. Ils se battent depuis plus d'une décennie à Yaoundé pour le paiement de leurs droits. Reportage de notre correspondante Idé Sandrine Nyamga.
Depuis plusieurs semaines, hommes et femmes pour l'essentiel du 3e âge montent la garde au ministère des Finances à Yaoundé, une garde spéciale pour ces hommes et femmes qui sont des ex-employés des sociétés d'État, aujourd'hui privatisées ou restructurées. Ils réclament à l'État de leur verser leurs droits. Pancarte en main, ils crient leur colère. Joséphine Chumba fait partie des manifestants.
Moi, je suis au Grand Nord, je suis à Garoua. Je travaille à l'ONADEF. On disait qu'on payait. C'est ça qui m'a amené ici à Yaoundé. Je suis là, ça fait 10 ans. Mes enfants ne fréquentent même plus. Moi, je suis malade, tension, diabète, tout ça. Je n'arrive plus à vivre, je ne debout. J'ai loué une chambre comme ça, là. Des fois, il fait 2 jours, 3 jours sans manger.
Ces ex-employés pensent que le gouvernement reste jusqu'ici sourd à leurs revendications, vieilles d'une décennie au moins. Ces revendications sont la suite du paiement de la prime de reconversion qui s'élève à près de 30 milliards de francs CFA, dont 5 milliards débloqués depuis la fermeture des dites entreprises, comme l'explique Joseph Koum, l'un des porte-parole du collectif.
Nous réclamons l'intégralité de la prime de reconversion par le chef de l'État, soit 12 mois. On nous a avancé partiellement 3 mois de cette prime. D'autres n'ont pas encore reçu un radis. La prime de reconversion est plus de 28 milliards de francs, mais pour le moment, il n'y a que 3 milliards, 300 quelques qui ont été rétrocédés aux ex-employés depuis fin 2013, début 2014.
S'appuyant sur le dernier mouvement des militaires, les ex-employés des sociétés d'État espèrent aussi une réaction prompte des hautes autorités.
Pour un simple petit mouvement que ces militaires ont manifesté, immédiatement, le président de la République a pris une mesure et on les a payés sur le champ. Nous venons ici chaque jour. Regardez ces vieux-là. Nous ne restons que l'ombre de nous-mêmes.
Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi les militaires ont mangé, on les a payés? Nous ne sommes pas aussi des Camerounais. C'est honteux de voir un pays comme le Cameroun. Chaque fois, on est comme ça là. Tous les pays, le monde entier nous voit. C'est honteux. Qu'on nous paye.
Pour certains acteurs politiques, ces manifestations qui ont parfois débouché sur des arrestations sont la preuve de la mauvaise gouvernance. Abel Elimi Lobé est secrétaire national à la communication du Social Democratic Front, le SDF, parti de l'opposition au Cameroun.
C'est un drame. À l'examen de la société, on constate que les personnes âgées dans notre pays, les mécanismes habituels de prise en charge sociale commencent à ne plus très bien fonctionner. Je suis révolté de voir que quand des personnes comme ça vont manifester, au lieu qu'il y ait de la compassion autour, on leur oppose la violence d'État au nom de je ne sais quel droit.
Les ex-employés des sociétés d'État ne sont pas les seuls qui ruminent au quotidien leur colère au Cameroun. Il y a aussi les maîtres de parents et les instituteurs vacataires qui appellent les autorités à déployer des moyens pour améliorer la condition des travailleurs du secteur éducatif au Cameroun.
Les trafiquants et réseaux auxquels les migrants africains ont recours profitent de leur soif d'un avenir meilleur pour abuser d'eux et leur soutirer un maximum d'argent, souvent dans la violence. Mais qui sont ces passeurs de la mort? Reportage de Nicolas Pinault, l'envoyé spécial de VOA Afrique en Europe.
D'Asmara à Tripoli, en passant par Khartoum ou Agadez, les passeurs sont partout sur le continent. Même de l'autre côté de la Méditerranée, ils ne sont jamais bien loin des migrants qui pensent pourtant avoir fait le plus dur en posant un pied sur le continent européen. Impossible d'atteindre la Libye et espérer prendre un bateau sans passer par ces filières. Localement, moyennant quelques centaines de dollars, elle se limite à faciliter la sortie du pays pour gagner discrètement la frontière. L'appât financier est évident, ce trafic génère des milliards de dollars de profits chaque année et l'intérêt des organisations criminelles internationales est croissant. Chaque candidat au voyage paie plusieurs milliers de dollars pour se rendre en Europe. Nicole est une policière allemande qui ne souhaite pas donner son nom. Elle travaille pour Europol.
On peut dire que les réseaux sont plutôt bien organisés, surtout en Afrique et même en Europe. Le crime organisé est toujours à la recherche de nouvelles opportunités, surtout quand le risque est faible.
Tous ceux qui ont pu arriver de l'autre côté de la Méditerranée livrent des témoignages accablants. Outre la privation de liberté, les passeurs leur font aussi subir les pires supplices et de nombreux migrants sont brûlés par les trafiquants dans le Sahara, de la Libye jusqu'au Tchad en passant par le Soudan et l'Égypte. Un homme a ainsi vu son visage brûlé lorsque les passeurs ont mis le feu à un conteneur dans lequel s'entassaient plusieurs dizaines d'entre eux. Nous avons obtenu des images auprès d'un médecin italien de Milan qui soigne les migrants dans un centre d'accueil. Ce docteur a voulu partager avec VOA Afrique ses clichés pour que le monde sache, selon elle, ce que ces personnes endurent tout au long de leur voyage. Les femmes sont aussi souvent victimes d'abus sexuels. Même en Italie, les passeurs poursuivent leurs opérations. Des Érythréens racontent que des individus leur ont expliqué qu'il ne fallait pas s'enregistrer auprès des autorités italiennes pour poursuivre leur voyage. Au contraire, moyennant paiement, ils se chargeraient de leur faire gagner la Suède ou l'Allemagne au plus vite. Les polices européennes sont donc vigilantes à la descente des bateaux pour repérer les possibles victimes de trafic. Giovanni Abate de l'Organisation internationale pour les migrations en Sicile explique par exemple le fonctionnement des trafiquants nigérians.
Les filles sont victimes des trafics d'êtres humains. Elles sont conditionnées depuis le Nigeria à ne pas fuir et à obéir en Europe à leur proxénète. Il s'agit souvent d'une madame qui exploite ses futures prostituées sur les trottoirs.
À des milliers de kilomètres de la Sicile, dans le nord de la France, les passeurs s'activent aussi à Calais, dans la jungle, où plus de 4000 migrants s'entassent en attendant de se rendre en Angleterre, ils sont présents. Ils monnaient leur service aux Afghans ou aux Soudanais qui espèrent passer outre-Manche. Plus discrète, la mafia albanaise rôde aussi autour du camp. Depuis Calais, Nicolas Pineau, VOA Afrique.
Merci pour votre attention. Très belle journée à l'écoute de VOA Afrique.